Allez, 9h40, tapant, démarrage en trombe de l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Cette semaine, la fièvre du handball devrait grimper. Enfin, on va voir, c'est toujours un pari quand c'est pas du foot. Le mondial de ce petit ballon rond se déroule en France et les Bleus, déjà portés par les JO, attaquent en force les quarts de finale. La compétition, intégralement diffusée en payant sur beIN Sport, eh bien, va basculer pour tout le monde sur TF1 qui vient de s'octroyer les derniers matchs des experts. Bascule vers le grand public donc. Bonjour Grégoire Margoton.
Bonjour, c'est bien.
Voilà, surprise, c'est vous, c'est la voix du foot qui allait commenter ces rencontres. Un jeu qui va très très vite sur le terrain. Des téléspectateurs de chaînes généralistes dans un pays dénué de culture du hand, autant dire que vous allez parler à une majorité de joyeux ignares. Je me mets dedans, bien entendu. Nous tous, on y connaît peu et on compte sur vous, une gageure. Hashtag Instant M.
L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter.
My first stop is that, as you know, I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth.
What? Vous le savez, je suis en guerre ouverte contre les médias. C'était la voix de Donald Trump samedi. Les journalistes, je cite, sont parmi les êtres humains les plus malhonnêtes sur cette terre. Quel est le plus grave dans cette séquence, selon vous? Les déclarations du nouveau président des États-Unis ou les rires des membres de la CIA qu'il avait peu avant qualifié de nazis? Trump a également évoqué les images de la télévision et les photos de foules rassemblées lors de son investiture à Washington, elles auraient été façonnées, selon lui, pour tromper l'opinion. Je cite encore, « J'ai fait un discours, j'ai regardé, et cela avait l'air d'un million, 1,5 million de personnes. Et puis ensuite, je regarde une chaîne de télévision qui montrait des pelouses vides et parlait de 250 000 personnes. C'est un mensonge. »
If the predictions now are right, this will be a victory for real people, a victory for ordinary people, a victory for decent people.
Eh bien ça, ce n'est plus du Donald Trump, c'est du Nigel Farage dans le texte, leader politique britannique engagé dans une campagne pro-Brexit virulente. Il avait démissionné, souvenez-vous, de son parti, le UKIP. Eh bien, il rejoint désormais comme analyste et éditorialiste la chaîne Fox News. Ça tombe bien, celle-ci appartient à Rupert Murdoch, le magnat conservateur le plus allergique qui soit à l'Union européenne. De Nigel Farage, Donald Trump aurait voulu faire le nouvel ambassadeur anglais aux États-Unis. Eh bien, le poste n'est pas à pourvoir, a sèchement répondu le gouvernement britannique. Grégoire Margoton, vous reconnaissez?
Ah oui, j'ai eu peur quand j'étais petit avec cette musique.
Oui,
mais ça annonçait un grand film et un beau débat.
C'est ça, c'était les dossiers de l'écran. Et bien en fait, Jean-Luc Léridon, qui débuta sa carrière du temps de l'ORTF, puis qui réalisa les grands rendez-vous de la télévision française, les dossiers de l'écran, vous venez de l'entendre, l'heure de vérité, apostrophe, c'était lui aussi. Il vient de s'éteindre en pleine année présidentielle. Lui qui mit en scène également les duels de 1988 et de 1995, à savoir le débat inoubliable de l'entre-deux-tours, Mitterrand-Chirac, et puis celui qui suivit, Chirac-Jospin. Voilà, Grégoire Margoton, on va revenir quand même sur les exploits de l'équipe de France de football pendant l'Euro. Vous avez été, vous, nouveau commentateur sur TF1, vous arriviez fraîchement de Canal+, à ce moment-là, autant jugé que le sélectionneur et les joueurs sur le terrain. Le terrain, c'est toujours comme ça que ça se passe, via les réseaux sociaux, c'est sans pitié. Manifestement, ça a été un sans faute, une adhésion totale. Vous vous êtes senti porté par le public à ce moment-là?
Oh, je me suis senti porté par mon nouvel environnement, je me suis senti porté par la compétition, par les footballeurs, par un peu tout ce qui s'est passé en France à ce moment-là. Il faisait bon, c'était un beau mois de juin, c'est allé jusqu'en finale. Voilà, il y avait une bonne ambiance en France à ce moment-là. Bon, c'était que du football, mais ça faisait du bien. Voilà, je me suis senti porté aussi par Vicente Lizarazu qui était avec moi,
mon nouveau
copain de jeu.
Et votre plus beau moment, votre plus beau souvenir ? De commentateur.
Ah, je sais plus, peut-être effectivement parce que j'ai peut-être trouvé les bons mots au bon moment à ce moment-là.
Mm-hmm.
Le but de la Roumanie, le premier match de Dimitri Payet.
De Dimitri Payet.
À la 89e minute qui libère tout le monde parce que c'était très 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 tendu à ce moment-là.
Bah oui, justement, et cette équipe qui démarrait souvent ses matchs très mal et qui allait de rebondissement en rebondissement, c'est le plus beau des scénarios pour vous, le commentateur.
Ah, ça c'est bon parce que c'est une des rares choses qui reste en direct, un grand match de football ou un grand événement sportif. Tout est enregistré aujourd'hui. Donc on est vraiment dans l'instant. Et quand cet instant-là, en plus, réserve du suspense, comme c'était le cas, et de la tension, tout y est.
Vous n'avez pas peur de perdre ça, justement, avec le hand? On va en reparler dans un instant. Mais le foot, il y a ça, qu'il y a très peu de points qui sont engrangés. Donc jusqu'à la dernière seconde, et c'est souvent arrivé dans l'histoire du foot, tout peut basculer à la dernière minute. Dans le hand, parfois, il y a 10, 15, 20 points d'écart et on a l'impression que c'est plié.
Ça a été plié dans les poules, parce qu'il y a des grosses différences, c'est vrai, entre l'équipe de France, les experts, et le Bahreïn, et je sais pas, d'autres équipes qui sont beaucoup moins fortes. Mais en 2001, si mes souvenirs sont bons, c'était une finale de championnat du monde, déjà en France, à Bercy, c'était France-Suède. Ça s'était joué à un but de Grégory Anctil à la dernière seconde, prolongation et victoire de l'équipe de France de deux petits buts.
Ça veut dire que vous avalez des fiches sur
pas du tout, je le savais ça. Quand même, j'en connaissais un tout petit peu quand même sur l'histoire du hand. Je suis assez vieux quand même pour avoir vu ces matchs-là.
D'accord, mais ce sera la première fois que vous allez commencer.
Il y a du suspense dans le hand, oui, ça c'est sûr.
Il y a du suspense dans le hand.
Oui, évidemment.
Oui, il y a du suspense dans le
hand. La preuve, le Danemark et l'Allemagne ont été battus hier, donc il y a du suspense.
Grosse compétition, grosse compétition qui s'annonce. On va revenir quand même encore un peu à l'Euro et puis le hand ensuite.
Attention, ce ballon perdu, Griezmann avec Benzema. Griezmann dans la surface de réparation. La frappe, ça termine au fond. L'ouverture du score pour l'équipe de France. Il aura fallu attendre la 35e minute et un bon décalage de Karim Benzema pour Antoine Griezmann. Ça fait 1-0.
Ça, c'était du margoton dans le texte. On a vu émerger le phénomène Antoine Griezmann au début de cet Euro. C'était pas forcément lui qu'on attendait. Quand un joueur comme ça devient soudainement aussi médiatique, aussi populaire, qu'il attire tous les regards, est-ce que vous, commentateur, vous avez tendance à le favoriser, à déplacer votre commentaire vers lui ?
À
le mettre en mots plus que les autres.
Il n'est pas seul, il a mis du temps en plus à arriver pendant l'Euro, Antoine Griezmann. Oui. Il a mal débuté. Mmh. Voilà, il était sur la fin de saison de son club avec l'Atlético Madrid et perdu une finale de Ligue des Champions. Il n'était pas au mieux. Donc on est parti sur Dimitri Payet, justement.
Exactement.
C'est chacun à son tour a apporté sa pierre à l'édifice. C'est un peu la même chose dans une équipe de hand. C'est pas toujours Karabatic, c'est pas toujours au meilleur, mais tout d'un coup, c'est un
gamin,
Fabregas.
Mais dans vos mots, à vous, commentateur, c'est uniquement ce qui se passe sur le terrain ou c'est aussi cette fièvre qui s'empare des journalistes, du public, des supporters que vous traduisez?
Non, moi j'essaie de m'adapter à l'instant, moi je raconte l'histoire qui se passe sous mes yeux, j'essaie de ne pas être trop influencé par ce qui se dit autour. Voilà, l'histoire elle est là et c'est à moi justement de l'accompagner au mieux avec équilibre, d'être journaliste. C'est là, à ce moment-là, que je suis journaliste, donc je ne suis pas forcément influencé par ce que j'ai lu ou par l'air ambiant.
Alors l'air ambiant, il est parfois très fiévreux et positif, il est parfois très fiévreux et très négatif. On se souvient qu'avant l'Euro, il y avait eu toute cette polémique autour de Benzema entre autres. On sait bien qu'autour du foot, il y a ce devoir d'exemplarité qui colle au basque des joueurs, qui est extrêmement fort. Il y a quelque chose comme ça, il y a un rapport moral au foot, une attente du public, mais pas seulement, aussi des institutions, des journalistes, parfois même des hommes politiques. Est-ce que vous sentez la même chose autour du hand ? Dans les mêmes proportions.
Je sens évidemment que le football déchaîne beaucoup plus de passion et de jugement que n'importe quel autre sport. Le hand, ce sont 500 000 licenciés, c'est déjà beaucoup. Le football, c'est plus de 2 millions.
Mm-hmm.
Le football, c'est le seul sport mondial. Voilà, le hand n'est pas un sport mondial. C'est un sport qui n'est pas pratiqué dans le monde entier. C'est un très grand sport, un sport génial. Mais le football est c'est un cliché, langage universel vraiment aujourd'hui. Même la Chine va s'y mettre de façon massive. Donc voilà, le football est partout. Et on demande aux footballeurs, on en fait trop dans un sens, on en fait trop dans l'autre sens. Moi, j'essaie de pas trop les accabler quand ils sont, quand ils doivent être jugés négativement, et j'essaie de pas trop les encenser quand ils font des choses positives.
Parce que tout ça, c'est quand même lourdement politisé, hein, ces dernières années.
Je sais pas si c'est politisé, en tout cas, c'est un peu fanatisé, oui.
Un peu fanatisé. Oui, bien sûr. On rappelle l'affaire Karabatic, quand même, qui colle hein, au nom du plus grand joueur
alors
en France.
Alors qu'il y a 15 ou 14 prévenus dans cette affaire,
dans
il
cette
n'est pas
affaire.
Seul.
Bon, alors, le son nous a glissé, on a eu un petit souci technique, c'est pas grave. Donc, il y a eu une affaire de tricherie, il y a eu 15 ou 14, en effet, prévenus lors du procès. Tricherie sur des questions de paris sportifs. Et en même temps, les Karabatic ont continué à jouer. Hein. Ils ont fait appel et l'appel n'a pas encore été rendu. Ils sont toujours là. Alors que autour de l'affaire Benzema, il y a eu quasiment vendetta médiatique. Il y avait des sondages sur le site des grands journaux pour savoir si les gens étaient pour ou contre la participation de Benzema.
C'est décuplé, évidemment, ouais. avec le football. C'est décuplé. Ça a eu quand même des conséquences importantes sur la carrière de Karabatic.
Oui.
Ça, il
ne
faut pas l'oublier. Il était à Montpellier. Il a dû quitter Montpellier. Ouais. Il a été lâché par un paquet de ses sponsors à l'époque, donc il y a eu des conséquences financières aussi pour sa carrière, pour son image. Après, ça n'a pas été jugé, après il n'est pas seul, après on n'est pas non plus dans... Je vais pas minimiser ces faits, évidemment, mais il n'y a pas mort d'homme, je ne suis pas sûr non plus qu'il soit responsable directement dans cette affaire, c'est quelque chose de très collectif ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Le jugement n'avait pas été rendu, et Claude Onesta, entre autres, on ne parle pas des clubs mais de l'équipe de France, oui, a dès le départ dit, voilà, moi tant qu'il n'y a pas de jugement officiel, je fais confiance à Nicolas Karabatic.
Voilà. Voilà.
Alors, et pourquoi pas continuer à lui faire
sacré
confiance.
Sacré zozo, les joueurs de l'équipe de handball. Ils se sont quand même pas mal illustrés face aux journalistes.
Non, pas la table, c'est notre outil de travail, messieurs. Elle se démonte en une demi-heure, vous n'avez pas le temps.
C'est pas grave.
Bon, je vais faire ce que je peux. On va essayer de faire une vraie interview. Je vais la faire de profil alors. Alors, un mot quand même, c'est pas super intéressant ce qui se passe là.
Champion olympique.
Voilà, c'est donc voilà, ça s'appelle le handball. Il n'y a que le handball pour faire ça, effectivement. Il y a peut-être le rugbyman, mais il y a aussi Nicolas Karabatic et Xavier Barraché.
Ça s'appelle le handball, donc qui casse un studio à l'équipe télé, qui déshabille un journaliste de BFM TV. Est-ce que vous diriez que la victoire rend intouchable? Que comme ils gagnent tout, on leur pardonne tout, d'une certaine manière?
J'espère que non.
Ouais.
Ça a été peut-être un petit peu le cas, juste après les Jeux Olympiques de Londres, où un peu collectivement, les Bleus s'étaient braqués contre la presse, ou avaient même utilisé la presse, qui n'était pas forcément très tendre avec eux pendant la compétition et juste avant, pour s'auto-motiver et pour créer un effet de groupe. Et donc derrière, la victoire a été un petit peu trop fêtée. Voilà, ils se sont peut-être sentis un petit peu intouchables. Je pense qu'ils sont retombés sur terre, qu'ils sont très heureux que ça se passe en France, très heureux de montrer une autre image, que l'image des barjots qui détruisent des studios a un peu évolué. Ils sont obligés d'avoir évolué, de ne pas être totalement comme les anciens. C'est des sportifs aujourd'hui, ils doivent récupérer entre deux matchs, ils font attention à leur sommeil, à leur...
Et puis ils ont des conseillers en communication,
un
tous.
Petit peu, mais voilà, ils défendent aussi des valeurs, ils ne sont pas footballeurs, ils ne sont pas rugbymen, ils sont handballeurs, ça reste quand même un esprit bien particulier. Je ne suis pas sûr qu'ils détruiront le studio de TF1.
Alors justement,
dimanche
on va en parler.
Soir, même si je le souhaite.
Comment vous
bah, je leur souhaite.
attention quand même. Les provoquez pas trop. Alors comment commenter du hand Grégoire Margoton? D'abord, c'est en salle, ça va tout changer. Vous n'allez pas mourir de froid, ni vous, ni le caméraman. Parce que...
Eh bien si, c'est à Lille, au stade Pierre-Mauroy.
Oui.
Mais oui, mais demain soir à Lille, il va faire froid
va
dans
faire
ce
froid.
Stade.
Oui, il va faire froid.
25 000 personnes, c'est comme un stade de foot.
Hein. Oui, c'est comme un stade de foot. Alors justement, comme dirait Jacques Vendroux, notre maître à tous, ok, c'est pas du foot, mais il y a quand même un ballon, des attaquants, des défenseurs, des cages, des buts et des gardiens de but. Il n'empêche qu'il y a des règles très spécifiques au handball, qu'elles sont forcément mal connues par le grand public de TF1. On n'est plus sur une chaîne sportive, on n'est plus sur beIN Sport, et qu'en même temps, on connaît mal les joueurs, à part les deux ou trois noms de stars qui reviennent souvent dans les médias. Qu'est-ce que vous allez privilégier, vous? Plutôt les noms des joueurs pour savoir qui court, qui touche la balle, à quel moment, ou plutôt mondiaux, ces règles qui risquent de nous perdre au fur et à mesure de la compétition, Grégoire Margoton.
C'est pas la même musique que le football, évidemment.
Non.
Vous l'avez dit, c'est pas le même rythme, c'est pas la même pulsation. Donc je vais essayer de m'adapter. Bien sûr qu'il faut pas donner à chaque fois le nom du joueur qui touche le ballon, sinon on devient fou.
Mm-hmm.
Bien sûr qu'il faut essayer de parler au plus grand public, donc essayer d'expliquer les règles qui sont pas immédiatement compréhensibles.
Mais vous avez très peu de temps, ça va très vite.
On a très peu de temps, mais on n'est pas obligé de décrire toutes les actions, c'est ça aussi qui est intéressant. Parce que tous les buts ne sont pas tous importants. Voilà, s'il y a 5 partout et qu'il y a 6-5, mm-hmm. forcément, il n'est pas forcément très important le sixième but, à moins qu'il soit né d'un geste incroyable. Et ce geste incroyable, il faut en parler. J'ai un consultant,
oui.
qui est un type génial,
oui.
qui s'appelle Philippe Gardan, qui mm-hmm. lui va vulgariser magnifiquement. Et effectivement, si, comme il y a 2 ans au Qatar, les audiences sur TF1 sont de 9, 10 millions de personnes, effectivement, sur ces 10 millions de personnes, il y en a peut-être
voilà.
que 200 ou 300 000 qui connaissent très très bien les règles du hand.
C'est ça.
Donc on va travailler pour les 9 700 000 autres et
ouais.
essayer de pas être ridicule pour les 300 000 qui connaissent déjà le hand.
C'est ça,
pas
c'est
facile.
Quand même un peu le grand écart.
Un peu.
Je vous fais écouter un commentaire de match de foot, très propre au match de foot. C'est ces dizaines et dizaines de séquences au ralenti qui émaillent les matchs.
Oh, penalty.
Eh ouais, bah alors il faudrait revoir ça. On va revoir cette action, cette situation-là. Ah, il y a un petit accrochage, il se laisse tomber quand même.
Ouais, mais ça suffit.
Ouais, il y a un petit accrochage.
Ça suffit.
Avec la vitesse, c'est clair
oui.
qu'il y a l'accrochage, il y a le petit pied qui fait tomber Stanciu.
Voilà, on le sent, on est plus en
on
direct.
A le temps, hein.
On n'est plus en direct, on a le temps.
Mm-hmm.
Et évidemment, aujourd'hui, il y a toutes ces séquences de rediffusion à l'intérieur de la diffusion qui fait que vous êtes sans cesse en train de re-raconter une histoire qui est en train de se dérouler vitesse grand V. Alors, évidemment, les matchs de hand sont beaucoup moins chiadés en termes de production. Il y a moins d'argent, peut-être moins de caméras que dans les finales de l'Euro, hein, où là, il y a carrément 50 caméras, centaines de techniciens mobilisés. Plus il y a des faits, et plus c'est difficile de se placer pour le commentateur, plus on attend de lui qu'il se taise ou plus on attend de lui qu'il parle.
Ah, je pense que quand l'image a du sens, il faut du silence. Quand
mm-hmm.
l'image, on doit lui donner du sens, il faut l'expliquer. Voilà. Il y a le temps des ralentis des fois dans le handball aussi.
Oui, il y en a.
Il y a
un
le temps
petit...
d'un ralenti.
Voilà, c'est ça.
Il y a le temps aussi d'expliquer pendant l'action qui se poursuit, l'action précédente encore.
Mm-hmm.
Ça, c'est pas un problème. Mais il faut avoir une économie de mots, peut-être.
Une économie de mots.
Oui, plus importante.
Parfois, on regrette d'avoir trop parlé.
Et encore plus précis. Je vous raconterai ça quand j'aurai commenté mon premier
non,
match
mais
de hand.
Au foot, par exemple.
D'avoir
parfois,
trop parlé,
regrette
je le regrette à chaque fois. Bien
c'est
sûr
vrai.
D'avoir trop parlé. Toujours, toujours. Moi, pour moi, le match idéal, c'est presque un match en silence, comme le commentent les Allemands. Vous écouteriez un match commenté par les Allemands de football, ça peut être 1 minute 30 de silence. Et c'est qu'une seule personne, souvent, qui commande, pas de consultant.
Ouais.
C'est une autre école. C'est l'inverse des Espagnols qui parlent tout le temps et qui remplissent
Et les Français sont entre les deux.
Voilà.
Et vous trouvez que cette multiplication des ralentis, des rediffusions, ça perd la force un petit peu du direct?
Un petit peu. C'est aussi une maladie qui s'est abattue sur les réalisateurs de football depuis une quinzaine d'années parce qu'on leur donne énormément de moyens.
Oui.
Ils ont, comme vous le dites, 25, 30 caméras
oui,
des
oui.
fois. Et qu'il faut montrer le dispositif des fois pour montrer qu'on
et
a
eux, ils disent
qu'on
a
des
il y a un
moyens.
Lobby des commentateurs qui veulent toujours
plus. Non, on ne parle pas
de
lobby, bien sûr que non, pour les réalisateurs. Ils ont de magnifiques outils à gérer. On reviendra peut-être un
c'est
peu
c'est vous
plus
qui avez poussé pour le hand sur TF1.
Moi
oui.
Pour commenter
ouais.
Pas du tout.
Pas
on me l'a proposé. J'ai pris 2 jours pour réfléchir. Vraiment,
c'est
au
vrai.
Début, je voulais
vous
pas.
Aviez peur de tricoter entre les matchs de l'équipe de France
non,
de
j'avais
foot
j'avais pas peur de tricoter. J'avais peur de pas être légitime du tout pour ça, d'être catalogué foot. Et je me suis dit, écoute garçon, tu as 47 ans. Si tu refuses ça maintenant, un championnat du monde en France avec la possibilité peut-être de commenter une finale de championnat du monde avec des joueurs extraordinaires, tu le regretteras toute ta vie.
Voilà. Écoute,
donc,
garçon.
Donc j'y suis allé.
Bonne chance. Garçon,
merci.
Ce sera demain soir à 19h sur TF1 et au moment où le JT commence, ça basculera sur TMC où Yann Barthès vous attend en short avec ses majorettes, d'après ce que j'ai compris. C'est la fin de l'Instant M. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia de Villers.
Alors, combien vous fasse aujourd'hui?
Ce matin, on reçoit une intolérante alimentaire qui va nous raconter ses tribulations entre intolérance au lactose, au gluten, au miel, aux œufs de poule. Bref, parcours du combattant d'une jeune fille qui n'a plus mal au ventre. Si vous êtes intolérant alimentaire, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.